Radio Kapi.
Oh, Kapi. 12h à Kinshasa, le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, Nord Kivu, au moins 40 civils ont été tués et de nombreux autres grièvement blessés la nuit dernière dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF dans le territoire de Beni. L'armée confirme cette attaque sans avancer un quelconque bilan pour l'instant. En Ituri, 31% des électeurs se sont déjà fait enrôler à près d'une semaine de la clôture officielle de cette opération, selon le parti politique Nouvel Élan. En réaction, le secrétariat provincial de la CENI rejette ces statistiques qu'elle juge erronées. L'invité de ce journal est le chef de bureau de la Monisco Bounia. Marc Carna rappelle que la Monisco continue à appuyer les initiatives des autorités locales et des communautés dans la recherche d'une paix durable en Ituri. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, au moins 40 civils ont été tués et de nombreux autres gravement blessés la nuit dernière dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF à Mukondi, un village de la chefferie de Bachou dans le territoire de Beni. Des sources concordantes dans la région parlent également de plusieurs maisons incendiées par ces assaillants. L'armée confirme cette attaque sans avancer un quelconque bilan pour l'instant. Des détails avec André Kitenge.
C'est aux environs de 20h30 heure locale que ces rebelles identifiés aux ADF ont fait incursion dans le village de Mukondi situé à une dizaine de kilomètres de la route principale Beni-Butembo. Plusieurs sources de la société civile contactées dans la région avancent un bilan provisoire de 40 civils tués et de nombreux autres disparus. Les mêmes sources ajoutent que cette attaque a fait plusieurs blessés graves et causé l'incendie de la quasi-totalité des maisons de ce village. D'autres sources locales avancent plutôt un bilan provisoire de 44 civils tués et un déplacement massif de la population vers le centre de Kalunguta et de Maboya, jugé sécurisé jusque-là. Selon Saddam Patangouli, un jeune leader de la chefferie de Bachou, les assaillants seraient venus de la vallée de Mwalika dans le secteur de Rwenzori, fouillant, selon lui, les opérations militaires que mènent les forces conjointes des armées congolaises et ougandaises. Le porte-parole militaire des opérations Sokola 1 Grand Nord, le capitaine Anthony Mwalushai, confirme cette attaque. Cependant, il n'avance aucun bilan et promet de se prononcer dès que possible. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
En réaction, la société civile Coordination Provinciale du Nord Kivu condamne cette attaque et appelle l'armée à ne pas oublier le danger que représentent les ADF dans la région de Beni. Bien qu'elle soit censée combattre les agresseurs du M23 dans les territoires de Rutshuru et Masisi, Edgar Mateso, premier vice-président de la société civile du Nord Kivu, fustige également le fait que cette attaque ait lieu dans une zone où sont cantonnés des miliciens Mai Mai du groupe UPLC depuis plusieurs années en attente de leur cantonnement et de mobilisation. Ces propos ont été recueillis par Grévis Salumou.
C'est d'abord avec une grande surprise que nous apprenons que nos compatriotes de Mukondi ont été victimes d'une attaque criminelle des ADF. Notre inquiétude va dans le sens de constater que ce genre de faits sont observés régulièrement pendant que la tension du gouvernement congolais c'est plutôt vers Rutshuru. Et oublier que les ADF sont toujours actifs dans la zone en errance et continuent à faire du mal aux civils. Et nous ne sentons pas une grande mobilisation de l'armée, surtout dans cette zone. Bien sûr que la force de coalition FARDC-UPDF est en train de travailler. Mais il faut aussi noter que dans la zone où il y a eu des massacres et sous le contrôle d'une milice qui est déjà abandonnée là-bas, nous voudrions que dès maintenant que les autorités militaires puissent retirer la milice de l'UPLC basée à Kalunguta et mettre cette zone sous le contrôle de l'armée congolaise et continuer avec la traque de ZADEF.
Toujours au Nord Kivu, une accalmie s'observe ce jeudi matin sur différentes lignes de front opposant l'armée congolaise aux rebelles du M23 RDF. C'est notamment autour de la Rwindi, au nord du territoire de Rutshuru et autour de Sake, sud-est du territoire de Masisi. C'est après des violents affrontements hier mercredi dans la matinée et qui ont aggravé encore davantage la situation humanitaire dans les deux zones. Détail avec Blaise Sindani.
À part quelques tirs entendus dans la nuit sur les collines surplombant les collines de Kiroshwe et Chacha, à environ 10 km à l'ouest de Sake, un calme est observé ce jeudi matin dans cette zone. Selon certaines sources militaires, l'armée congolaise qui contrôle toujours le tronçon routier Sake-Chacha-Minova a renforcé encore ce matin ses troupes dans les deux villages. Toutefois, une grande partie de la population de la zone a fui à la suite des violents combats de mercredi matin au lendemain de la violation par les rebelles du M23 d'un cessez-le-feu qu'ils venaient de déclarer pour mardi à 12h. Sur le front nord du territoire de Rutshuru, le calme est aussi signalé autour de la Rwindi. Les rebelles continuent d'occuper Kibirizi, environ 20 km à l'ouest de la Rwindi. Ils auraient aussi avancé de quelques kilomètres jusqu'à environ 17 km au sud de la Rwindi sur l'axe Mabenga-Rwindi après des combats de quelques minutes hier dans la zone. Au moins 6 villages du groupement Mutanda autour de Kibirizi, chefferie de Bwito, restent pendant ces temps vidés de leurs habitants depuis l'occupation de la zone en début de semaine par les rebelles du M23.
À un jour de la fin de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à Lubumbashi, plusieurs personnes se plaignent de n'avoir toujours pas leur carte d'électeur. La société civile tire la sonnette d'alarme sur les dysfonctionnements de certains centres. D'autres détails avec vous, Jean Gandou.
Les centres d'inscription et d'enrôlement ne désemplissent pas. Les récurrents se présentent dès les premières heures du matin, espérant avoir les jetons pour y accéder. Malgré ce sacrifice, il y en a qui se retrouvent devant d'autres réalités. Il y en a qui viennent après à l'aide des billets de banque, ne suivent pas la queue et vite ils sont directement reçus aux grandes dames de ceux qui passent de longues heures d'attente debout sous le soleil. Dans d'autres centres, ce sont les pannes à répétition des machines qui retardent l'opération. Conséquence, certaines personnes se dirigent dans d'autres coins de la province pour se faire enrôler. Beaucoup nous ont indiqué que l'essentiel pour eux, c'est d'avoir la carte d'électeur qui donnera droit à l'obtention de la carte d'identité au moment de vote, ils verront s'il faudra se déplacer ou pas. La société civile tire la sonnette d'alarme et indique qu'il y a risque que la CENI enregistre beaucoup d'électeurs et qu'au jour du scrutin qu'il y ait moins de votants. Bertin Tchos, du cadre des concertations de la société civile du Haut-Katanga.
Chacun veut la carte. Il y a une masse de personnes qui quittent vers une autre zone au moment des élections. Je ne pense pas que ces mêmes personnes-là vont aller. Nous risquons d'avoir des personnes qui n'auront pas à atteindre leur seuil maximal qui a été fixé.
Ce qui a fait dire un autre acteur politique de Lubumbashi que cela pourra impacter négativement sur la cartographie électorale et demande ainsi à la CENI d'en tirer toutes les conséquences au moment venu. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Et pendant ce temps, en Ituri, 31% des électeurs se sont déjà fait enrôler après d'une semaine la clôture officielle de cette opération. Selon le parti politique Nouvel Élan qui rend public ces chiffres, recueillis sur terrain, ce faible résultat se justifie par les dysfonctionnements des machines dont certaines tombent souvent en panne. Ce qui ne permettra pas, estime ce parti politique de l'opposition, d'enregistrer un grand nombre d'électeurs en Ituri. En réaction, le secrétariat provincial de la CENI rejette ces statistiques qu'elle juge d'erronées. Les points avec Ezekiel Mousalia.
Selon son président fédéral, presque tous les centres d'enrôlement accusent le problème des dysfonctionnements des machines, ce qui ne rassure pas la population sur le nombre de personnes que la CENI compte enregistrer d'ici 17 mars prochain, d'où le risque de voir l'Ituri avoir moins de sièges lors des échéances électorales prochaines. Sylvain Aguenorot.
La CENI, pour l'ensemble de l'Ituri, a prévu installer 715 centres d'inscription. Alors, quand vous faites les calculs, 31% déjà enrôlés pendant la semaine de 2 semaines. Alors, ce chiffre est très bas. Il faut déjà noter que c'est une perte au niveau des sièges à province de l'Ituri.
De son côté, le secrétaire exécutif provincial de la CENI rejette ces informations. Jimmy Anga rappelle qu'il n'est pas de la responsabilité d'une quelconque organisation politique de publier les statistiques d'enrôlement. Jimmy Anga précise qu'une équipe de techniciens est déployée sur le terrain pour assurer la maintenance des matériels qui tombent en panne.
Il ne revient pas un parti politique soit-il de commencer à publier les chiffres qui d'ailleurs diraient qu'ils sont totalement erronés. C'est vrai, on a quelques machines qui tombent à panne par-ci par-là. Nous avons les techniciens de Mirou qui sont déjà déployés.
Pour rappel, l'Ituri compte enrôler 2 743 582 personnes. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Augmentation unilatérale du prix de la course par les conducteurs dans les transports en commun à Kinshasa. Les Kinois s'en plaignent quotidiennement. Une personne qui d'habitude payait 2000 francs congolais pour arriver à son lieu de service, puis retourner à la maison, est obligée de débourser présentement plus de 6000 francs congolais par jour. La SECO, Association des chauffeurs du Congo, fustige la léthargie des autorités urbaines qui tardent à sortir la nouvelle grille tarifaire. Des explications avec Anne-Célestine Mibé et Chris Bandundu.
Quitter sa demeure pour arriver à son lieu de travail ou à l'école relève d'un parcours de combattant aujourd'hui à Kinshasa. Les prix de la course en transport en commun varient selon les heures et les humeurs des conducteurs. Une course qui coûtait par exemple 500 francs congolais revient à 1000 francs, voire 1500 francs. Le soir et les heures de pointe, les prix passent à 2000 francs ou à 2500 francs. Cette situation pousse de nombreux Kinois à parcourir de longs trajets à pied le matin comme le soir.
C'est l'absence de l'État. Si les chauffeurs prennent leur initiative sans l'autorité gouvernementale, petite tronçon d'ici, j'ai payé, vous payez 1000 francs.
Le conducteur explique cela par le révision à la hausse à plusieurs reprises des prix des carburants à la pompe. De son côté, le vice-président de la SECO dans la capitale justifie cette spéculation par le fait que les autorités urbaines tardent depuis plus d'une année à publier la nouvelle tarification du transport à Kinshasa. Jean Mutombo.
S'il y a augmentation du prix du carburant à la pompe et que le seuil a atteint 10% et que la commission s'est réunie, c'est que nous demandons que la publication de l'arrêté tarifaire soit plus rapide par le fait que les gens doivent s'adapter à ce prix-là. Si ça prend trop de temps, il y a le tarif illicite qui s'installe dans la ville, il y a tout le monde qui se fait n'importe quoi, qui fixe son prix comme il veut.
En attendant cette nouvelle grille, les calvaires des Kinois qui dépendent du transport en commun continuent.
Et c'était un reportage d'Anne-Célestine Mibé et Chris Bandundu Kapalai. Dans le Maniema, le mot d'ordre de la grève du délégué syndical des enseignants de la sous-division de Kailo 1 dans la province éducationnelle Maniema 1 est respecté par les enseignants. Ils réclament l'amélioration de leurs conditions de travail. Déjà, les parents et élèves parlent des conséquences de cette grève qui perturbe le calendrier scolaire où plus de 6000 enfants sont affectés. Florence Kizalunga, reportage.
Le matin de ce mercredi, dans plusieurs écoles que nous avons sillonnées, les élèves ont répondu à leur rendez-vous de tous les jours, mais à l'absence de leurs enseignants. Cet élève Assia lance ses cris.
Nous regrettons de l'absence de nos enseignants à l'école. Comme conséquence, nous n'allons pas terminer les programmes. Raison pour laquelle nous demandons au gouvernement de payer vite nos enseignants afin que nous soyons encadrés. Surtout pour nous les filles, le danger est permanent. Faire même des jours sans étudier peut nous causer beaucoup de problèmes. Chères autorités, ayez pitié de nous.
Les parents interpellent aussi les autorités tout en disant qu'ils sont prêts à payer les études de leurs enfants.
C'est chaque année que les enseignants font les grèves. Pendant ce temps, les enfants traînent à la maison. Je supplie beaucoup au gouvernement de nous rendre la tâche facile en payant convenablement les enseignants ou de nous dire clairement que l'argent n'est pas là. Comme ça, nous allons nous arranger pour payer nous-mêmes les enseignants, car nous sommes fatigués avec le théâtre entre les enseignants et le gouvernement.
Signalons que la sous-division de Kailo 1 compte 101 écoles primaires et 49 écoles secondaires. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Renforcer les liens au sein de la recherche sur le climat, la biodiversité et la santé, c'est l'un des objectifs de la deuxième conférence internationale sur la biodiversité dans le bassin du Congo en cours à Kisangani. Hier mercredi, une équipe d'herpétologistes naturalistes spécialisés dans la zoologie des reptiles a annoncé la mise au point d'un projet d'ici avril d'un sérum contre le venin des serpents. Les gestionnaires du parc de la Lomami, pour leur part, lancent une alerte contre l'usage pour la pêche des plantes et composés toxiques dans la rivière Lomami, avec toutes les conséquences néfastes sur la santé humaine. Envoyé spécial à Kisangani, Billy Van Lutumba.
Dans l'analyse des diverses approches pour la conservation de la biodiversité du bassin du Congo, les conférenciers mettent bien plus un accent sur leur interaction avec les communautés quant aux menaces potentielles sur la santé humaine. Professeur Zachary Kusamba, directeur des projets d'herpétologie à Kinshasa.
Les venins des serpents est une source de médicaments. Le venin du corps, par exemple, c'est pour soigner les arthrites. Alors que le venin peut servir, il peut tuer. Nous enregistrons actuellement 5400 cas de morsures par an. Dans chaque province, il y a 8% des cas de mortalité. Maintenant, nous sommes en train de mettre au point un système de traitement, la production du sérum antivenimeux au niveau national.
Pour ce qui est des espèces halieutiques, les poissons de la rivière Lomami sont menacés de disparition à cause des produits toxiques. Julie Moukizi, chercheuse à l'ICCN, indique que ceci constitue un danger même pour les humains.
ça ravage toutes sortes d'êtres vivants qui se trouvent dans cette zone. En consommant ces produits, il y a trop de conséquences. Ça provoque des maladies cancérigènes et ça peut aussi aller jusqu'à la malformation congénitale.
Ces experts entendent mener des plaidoyers auprès des décideurs pour tabler sur ces agissements qui sont à l'encontre de toutes les approches de préservation de la biodiversité. De Kisangani, Billy Ivan Lutumba, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Environ 5000 migrants se trouvent dans les centres de détention officiels en Libye, mais ils ne représentent que la face cachée de l'iceberg, a indiqué le chef de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, hier mercredi. Et puis des frappes se sont produites cette nuit du 9 mars à travers l'Ukraine, à Kiev notamment, mais aussi dans la région de Kharkiv et d'Odessa. De nombreuses infrastructures énergétiques ont été touchées.
L'invité.
L'invité de ce journal est le chef de bureau de la MONUSCO Bounia. Marc Karna rappelle que la MONUSCO continue à appuyer les initiatives des autorités locales et des communautés dans la recherche d'une paix durable en Ituri. Il s'entretient avec Jean-Claude Lokidili.
Marc Kanasoro, bonjour.
Bonjour.
Quel étude faites-vous de la situation sécuritaire et humanitaire dans la province de l'Ituri actuellement?
Comme vous le savez, en Ituri, depuis la fin de l'année dernière, on a assisté à une recrudescence des actes de violence, notamment dans le territoire de Djougou, une partie du territoire de Mahagui, qui ont été sérieusement affectés par des violences contre les populations civiles, notamment perpétrées par des groupes armés qui se réclament appartenir aux communautés locales. Ces attaques continuent, même si en intensité, elles semblent avoir quelque peu baissé. Aujourd'hui, nous estimons avec les autorités à autour de 700 000 personnes, les personnes déplacées à Djougou. Nous avons plus d'un million, mais 700 000 rien qu'à Djougou, ce qui est très grand comme chiffre. Et donc, on peut conclure que la situation n'est pas du tout stable. De ce point de vue.
Pendant ce temps, il y a un processus de paix qui a été initié par les autorités du pays, je parle du gouvernement national, mais aussi provincial, et dont la MONUSCO est partenaire. Où est-ce que nous en sommes, nous?
De ce point de vue, je voudrais dire que toutes les initiatives qui sont prises, à la base, ne sont pas des initiatives en tant que telles de la MONUSCO. Ce sont des propositions qui émanent des populations et des communautés. Et c'est dans ce sens que nous accompagnons ces communautés pour discuter. Malheureusement, on a encore beaucoup de mauvaise foi. Il y a beaucoup d'engagements qui sont pris et qui ne sont pas respectés.
Par qui ?
Ben, par les responsables des groupes armés, notamment. Et aussi par certains responsables communautaires. De ce point de vue, je voudrais être très clair. Le travail continue de se poursuivre pour la documentation de tous les abus. Et tous ceux qui sont responsables de ces abus en répondront devant les tribunaux. Ils en répondront devant les institutions compétentes. Que ce soit le groupe Codeco, que ce soit le groupe Saïr, que ce soit le groupe MAPI, quel que soit le nom qu'ils se donnent, que ce soit les ADF, ils devront en répondre. Ça, c'est très clair. Et je pense que le gouvernement ne dit pas autre chose.
Marc Kanasoro, pendant ce temps, le constat c'est que les choses avancent très lentement, à pas de tortue. Il y a eu le processus de paix qui a été initié, et la programme PDDCS aussi qui traîne les pas. Bref, est-ce que ce n'est pas ces vides-là aussi qui font que justement les choses n'avancent pas sur le terrain? Tout à l'heure, vous avez fait allusion à Djougou, qui a plus de 700 000 personnes déplacées. Qu'est-ce qui bloque finalement?
Encore une fois, un certain nombre d'acteurs continuent de faire preuve de mauvaise foi et de très mauvaise foi parce qu'il nous semble qu'on a fait trop la part belle à ces entrepreneurs de la violence. On leur a donné trop d'espace. On a fait trop la part belle à ces entrepreneurs de la violence-là qui se sont épanouis sur cette entreprise macabre-là qui consiste donc à créer les tensions, à amener les gens à se massacrer. Pendant ce temps, eux, ils sont toujours prêts à participer au Grand Forum, à aller à Kinshasa. Ils sont reçus dans les réunions sur la base de tous ces troubles qui se passent au niveau local. Vous avez entendu Madame la représentante spéciale lors de son passage ici. La MONUSCO continuera de soutenir les tribunaux, continuera de soutenir la lutte contre l'impunité, continuera de soutenir le gouvernement dans son entreprise de s'assurer que la justice traditionnelle est en marche d'une part et que d'autre part, ceux qui doivent répondre de leurs actes en répondent.
Puisque vous en parlez, on sait aussi que la MONUSCO a appuyé le dialogue intra ou intercommunautaire. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui laisse beaucoup de temps à ce que ça ne continue, parce que jusque-là, on continue à dialoguer. Bref, parlez un peu de ce dialogue intra et interne, puisque nous en sommes aussi.
La proposition d'encourager ces dialogues émane des communautés. Il est important que les gens continuent à se parler. Quelle que soit la situation, il est important et il est critique que les gens continuent à se parler.
Il y a certains leaders communautaires qui ne sont pas d'accord avec cette démarche. Et on pense que le gouvernement et la MONUSCO, son partenaire, voudraient bien cacher tout ce qu'il y a eu autour de ce qui se passe depuis, je crois, 5 ans en Ituri.
Mais tout à l'heure, je vous ai parlé de documentation. Tout ce qui se passe en Ituri est documenté. Toutes les violences sont documentées. Et donc, ce dialogue vise, pour ces communautés-là, à parler justement de ces choses-là, à discuter en interne de ces choses-là.
Marc Kanassero, je vous dis merci.
C'était l'invité de ce journal, le chef de bureau de la MONUSCO Bounia. Marc Carnas s'entretenait avec Jean-Claude Lokidile. Fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.